Je pense que nos premiers journaux, on savait qu'on n'allait pas les relire ou qu'on voulait peut-être pas les relire tout de suite, mais je trouve que quand j'ai continué à écrire, puis là, j'étais rendue une jeune adulte de 18 ans, et là, je pense que, tu sais, je gardais des trucs pour m'en souvenir, puis je savais que ma mémoire n'allait pas garder des souvenirs qui étaient peut-être un petit peu moins agréables. Fait que le dernier journal que j'ai eu puis que j'ai tenu, c'est un journal que je savais que j'allais relire plus tard.
Faut bien commencer quelque part, une émission où on découvre des auteurs à travers leurs premiers écrits. Cette émission est enregistrée devant public au Café littéraire chez l'éditeur situé au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. À l'occasion du 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée au Québec depuis 1996, nous recevons aujourd'hui Caroline et Josiane Stratis, auteurs de Ton petit look et Ton petit look 2.
Nous sommes ici pour apprendre à vous connaître mieux sous un autre angle. Antoine Rostrand, d'ailleurs, au micro, directeur général des éditions Cardinal. J'aime mieux le dire par transparence. Donc, c'est moi qui ai édité vos deux livres. Donc, on est ici pour en savoir plus sur vous et surtout savoir quelle est la place de l'écriture dans votre parcours, comment ça a commencé, et vous avez apporté des extraits qu'on va lire, que vous allez lire. Donc, journaux intimes, premiers écrits, lettres. C'est toujours agréable, je pense, après un certain âge, c'est agréable de revenir dans le passé. Il y a eu un temps qui a passé, donc là, on peut retrouver ça mignon et naïf.
Il y a quand même certains extraits que peu importe s'arrêter 10 minutes après, c'est très niaiseux.
Il n'y a pas de prescription, non, c'est toujours, ça va toujours être un peu humiliant.
Ouais, c'est ça.
Mais l'exercice est intéressant et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir du plaisir aujourd'hui.
On est très, très contente parce que c'est rare qu'on va fouiller dans notre passé comme ça. Donc, tu sais, nous, c'est dans des boîtes, dans nos caves, puis on est comme « bye-bye ». Mais on a eu un passé aussi quand même trouble. Fait que c'est plus dur pour nous aussi de... T'sais, on va dire, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans mon journal intime, puis je savais comment il terminait. J'avais, tu sais, je l'ai jamais réouvert depuis que je l'ai écrit. Mm-hmm. Mais il m'a toujours suivi d'un appartement à l'autre, mais je l'ai jamais avant aujourd'hui.
Est-ce que tu as une boîte avec tous tes souvenirs de ce type-là?
Ça a été plusieurs choses. Là. Ça a été des sacs en plastique quand j'avais un peu moins de respect pour mon adolescence. Puis c'est de mieux en mieux, là, comme là, c'est une boîte Rubbermaid.
Ouais.
Il y avait beaucoup de choses, mais j'ai récemment déménagé, fait que j'ai fait le ménage, puis là, j'ai retrouvé des choses, puis là, je les ai toutes mises à la même place. Comme mes pierres semi-précieuses.
Parlons-en des pierres semi-précieuses. Merci de me tendre cette perche.
Where it all begin.
Et je pense que c'est intéressant de dire que, donc, vous, si j'ai bien compris, vous vendiez des pierres semi-précieuses. Je pense que semi-précieuses,
ouais,
c'est important de le dire.
Oui, mais oui.
Et à côté d'une librairie.
Oui, oui, donc on avait 12 ans. On travaillait
pour notre tante, puis Nicole.
Qui on la salue si jamais, c'est comment un podcast fonctionne. Mais on travaillait dans un magasin de... C'était comme un kiosque dans le milieu d'un centre d'achat. Puis en face, il y avait une librairie. Mm-hmm. Puis il y avait un gars qui nous trollait. Fait que nous, on allait le voir.
Vous trollait, qui passait, qui revenait, puis qui vous...
Non, c'est ça. Mais à chaque fois qu'on rentrait... Donc, on allait à la librairie pour aller acheter des livres parce qu'on a toujours... On a toujours préféré acheter des livres que les emprunter à la bibliothèque, garder cette trace matérielle-là, mm-hmm, les relire puis tout ça. Puis le gars, il nous donnait juste des lectures, pas de notre âge, mais tu sais, pas des lectures genre sexuelles, mais... Fait qu'on a lu Le Parfum à 12 ans, Le Bel Ami à 12 ans aussi. On a lu Lolita aussi. Fait que tu sais, comme on a vraiment eu une période un peu dark où on lisait des trucs qui nous étaient proposés par sûrement un gars qui étudiait en littérature.
Qui était clairement pas de notre âge, mais... Qu'est-ce qui est bon, puis ça nous a aidé avec le futur. Tu lis pas de la même façon à 13 ans que tu lis un livre quand t'as 17, puis tu comprends pas les mêmes choses non plus. Fait que, tu sais, on a lu Le Parfum, puis on n'a jamais on n'a jamais rien trouvé de sexuel à 13 ans dedans. Puis on l'a relu plus tard, on était comme, waouh, il y a quand
beaucoup
même une scène d'orgie et genre de cannibalisme. On n'avait pas le droit de lire les livres qu'on lisait à l'école secondaire parce que c'était pas de notre âge.
Oui.
Fait qu'on les recouvrait de tapisserie. Fait qu'on avait des trucs pour le recouvrir pour qu'on
puisse l'apporter. On avait des livres de tapisserie que notre cousine nous donnait parce qu'elle étudiait pour être designer intérieur.
Fait qu'on les couvrait de tapisserie parce que de toute façon, tu sais, la couverture de Le Parfum, nous, c'était comme une fille nue, couchée. Fait que...
Ouais.
Puis de toute façon, comme on n'avait pas beaucoup d'amis, on passait beaucoup de temps à la bibliothèque, à l'école, mm-hmm. parce que c'était un endroit où est-ce qu'on pouvait pas se faire niaiser parce que les gens n'avaient pas le droit de parler. C'était bien parfait pour nous.
C'est aussi à la bibliothèque qu'on a découvert Internet, fait que tout est dans tout.
Est-ce qu'on peut lire un premier extrait, peut-être?
Oui.
Donc,
fait que c'est mon premier...
Si
ça date du...
Décris physiquement de quoi a l'air le journal.
Ah, c'est une pièce d'anthologie, là.
C'est quoi? C'est-tu comme du feutre?
Non, c'est du papier. La couleur est verte. Puis il y a comme du papier artisanal sur le dessus, qui est texturé.
Oui.
On va pas juger le livre par sa couverture.
Non. Et est-ce qu'on a... À quel âge t'avais quand... est-ce que des dates?
J'y arrive.
D'accord.
Tout est dans le texte.
D'accord.
Mon très cher journal... Qui sera ton nom jusqu'à ce que j'en trouve un convenable? Je suis presque une poète. Au juste, mon nom est Caroline Stratis et j'ai 15 ans. Je suis née le 7 juin 1986 à 10h38. Tu es mon énième journal et j'espère que je vais te terminer parce que tu seras mon premier journal que je terminerai. Cool! On peut dire que je n'ai... pas gros d'amis. Disons que j'en ai même pas une, sauf peut-être ma sœur jumelle Josiane, que je considère plus comme une amie. Une meilleure amie. Fait que c'est ça.
Je me suis toujours demandé à qui s'adressait, à nous-mêmes. Est-ce qu'on va leur lire? Est-ce que tu leur lisais?
Non, je pense pas que je les relu.
Ou c'est comme juste écrit?
Je m'adressais
comme...
à Anne Franck.
D'accord.
Parce que à plus tard, ce livre-là, il s'est appelé... Anne, comme Anne Franck.
Tu disais chère Anne?
Salut Anne. En fait, j'ai toujours été plus salut que chère.
D'accord.
Je pense que j'ai toujours su c'était quoi ma place. Mais des fois, je suis mon très cher journal. Puis je pense que je vais peut-être t'appeler Anne parce que c'est le nom que j'aimerais donner à ma fille. Puis il y a Anne dans mon nom. Il y a Anne dans plusieurs noms que j'aime. Mais c'est drôle parce que, tu sais, maintenant, on est des blogueuses à temps plein, puis notre vie, c'est de raconter notre vie.
Oui.
Tu sais, fait puis, tu sais, notre journal, c'est un peu nos sites Internet, là. Fait que, on a comme. C'est un bon départ.
Oui, puis il y a quelque chose aussi dans vos. Dans l'écriture que vous faites aujourd'hui, que ça soit sur le blog ou dans les livres, quelque chose comme. Une recherche d'authenticité. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, il y a même... Je dirais pas que c'est une marque de commerce, là, parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a... vous abordez des sujets... Vous êtes connu pour aborder des sujets qui sont difficiles avec humour. Oui.
Puis on est très direct dans la vie.
C'est ça.
On est très direct quand on raconte... tu sais, dans... Je sais pas, là. Dans ce journal-là, je raconte la fois où je me suis fait attoucher sexuellement dans un party. Mm-hmm. Puis de la façon que je l'écris, c'est ce que j'ai vécu directement. Il y a pas de... Il y avait une démarche qui était très authentique depuis le départ. Puis on dit souvent qu'on a comme manqué, quand on était jeune, l'explication qu'il fallait garder des choses pour nous. Il y a personne qui nous l'a dit, fait qu'on a comme passé notre vie à juste être très, très direct. Puis ça nous a souvent nuit, tu sais. Dans nos journaux, on parle beaucoup là, qu'on n'arrête pas de se faire flusher, tu sais.
Mm-hmm.
Puis qu'on n'a pas d'amis. Je pense que c'est comme le fait que j'ai pas de chum, puis que j'ai pas d'amis, puis que je trouve ça difficile de trouver ma place dans ma famille, puis qu'on n'a pas le droit de faire grand-chose chez nous. C'est, tu sais, les plus gros sujets de mon journal intime. Fait que c'est ça, on n'avait pas beaucoup d'amis, puis on perdait tout le temps nos amis parce qu'on disait les affaires directes.
Les relations sociales, puis la vérité, c'est pas... des fois, ça fait pas bon ménage. Je sais que vous avez fait des conférences récemment dans des écoles secondaires. Est-ce que vous abordez ces sujets-là et comment vous les abordez?
Bien, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on se rappelait plus parce qu'on a... On a toujours dit qu'on n'avait pas beaucoup de souvenirs de notre enfance. Mm-hmm. Fait qu'on n'avait pas replongé là-dedans. Puis là, il y a eu la série 13 Reasons Why qui est sortie sur Netflix, 13 raisons en français. Ça a été un peu comme un coup de poing dans le ventre. Puis,
qu'est-ce que c'est cette série-là un peu?
C'est une fille qui se suicide. Mm-hmm. Puis elle a fait 13 cassettes. Puis elle les distribue. Puis les personnes qui sont concernées, qui ont peut-être facilité son envie de mourir. Elle leur parle, puis elle leur explique qu'est-ce qu'ils ont fait de peut-être pas correct.
Il y a beaucoup d'adultes qui critiquent présentement la série, puis qui disent que, tu sais, c'est trop poussé, que ça glorifie le suicide, puis... Moi, tous les adolescents que j'ai entendus parler de cette série-là, ils disent que c'est ça, la vie. Mm-hmm. Puis que ça représente bien la vie, puis que ça glorifie rien, ça fait juste ouvrir une porte à une discussion avec des adultes pour aller chercher de l'aide. Puis t'as tout, comme les adultes qui ont une discussion ensemble sur le fait que ça a donc ben pas de bon sens, puis qui écoutent pas les adolescents. Puis, tu sais, je me rappelle des fois où Caroline puis moi, on était, tu sais, on se disait que, OK, on passe au travers, tu sais, comme on va passer au travers de cette année, puis on va voir pour l'année prochaine, tu sais.
En tout cas, les gens qui critiquent, j'ai pas vu la série, mais les gens qui critiquent le fait qu'on parle, qu'on nomme, c'est clairement pas les gens qui sont en relation d'aide aujourd'hui qui disent exactement le contraire. Mm-hmm. Ça donnera pas l'idée à personne.
Dans les conférences, on en parle. Tu sais, on disait si jamais ça va pas bien, il faut aller chercher de l'aide. Puis si la personne que vous êtes en train d'en parler écoute pas, il faut aller trouver quelqu'un qui vous écoute. C'est peut-être de téléphoner à quelqu'un que vous connaissez pas. Puis c'est peut-être d'aller chercher de l'aide puis d'insister sur le fait que ça va pas bien. Mais il faut insister sur le fait que ça va pas bien parce que pour que ça aille bien un jour, il faut dire que ça va pas bien. Mais ça nous permet un peu de faire la paix avec qu'est-ce qu'on a vécu dans notre enfance puis de dire que ça nous a pas servi à rien. Puis je pense qu'il y a un gros côté quand tu as une maladie mentale comme moi, que tu cherches un sens à pourquoi j'ai une maladie mentale puis pourquoi ça va pas bien. Fait que, tu sais, au moins de pouvoir aider du monde après, ça fait comme, là, j'ai pas vécu tout ça
pour rien.
Pour fuck all.
Tu sais, on parle de sujets qui sont sérieux, mais puis vous en parlez dans vos deux livres, mais vous le faites toujours quand même avec il y a beaucoup d'humour dans vos textes.
Mais on vient d'une ville où l'humour avait quand même beaucoup sa place.
Quelle ville?
De Saint-Jean-sur-Richelieu.
Oui.
Nos midis ont été bercés par les appendices au début quand ils ont commencé à faire des trucs. Okay. Je pense que toutes les personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu qui étaient des outsiders se sont servies de l'humour pour survivre à leur secondaire. Mm-hmm. Puis la seconde qu'on a compris que si on déplaçait de l'air, mais qu'au moins on était drôle, les gens allaient peut-être nous aimer juste un petit peu plus ou, tu sais, comme être capable de nous supporter plus. Fait que ça nous a toujours aidés. Puis à un moment donné, on est devenu tellement sarcastique, tout le temps en train de faire des blagues, puis qu'on est comme plus capable de sortir de ça, tu sais.
Ça nous aidait aussi beaucoup à la maison, tu sais. Notre père était quand même... il avait une personnalité forte.
Mm-hmm. Pour il le était assez même. Intense.
Il était assez intense. Puis je pense qu'il a jamais compris le deuxième degré, là. Mm-hmm. Fait que Josiane puis moi, on s'en est servi.
Puis on consommait des Archies quand on était petite. Fait que, tu sais, c'est très... Moi, j'ai toujours trouvé que les Archies, c'était vraiment sarcastique. Fait que ça nous a aidé à construire un peu qui on était, mais...
Trop franche. Donc, on disait... Josiane, je pense que tu voulais lire un extrait de ta franchise.
Là,
un exemple.
Je cherche un peu la marde. Le 9 février
2020. Donne pas de nom.
Mon très cher journal, aujourd'hui, tout va mieux. Je t'explique.
Ce matin, façon de parler, vers midi, je me suis levée après avoir gardé jusqu'à 3 heures du matin. Caroline m'a gossé toute la journée pour qu'on aille au party à Mouton, Jonathan de son vrai nom. Je ne voulais pas y aller parce que Marie et Mathieu allaient être là, TK. À fin de compte, elle m'a convaincue. Avant d'aller au party à Mouton, j'ai passé au meilleur bout. Tout de suite, je suis fatiguée, il est 1 heure du matin. Je chatouillais les abdos de Mathieu et j'ai dit « Il faut que j'arrête parce que si Marie nous voit, elle va être jalouse. » « Ben non, là, Mathieu de répondre. Ça va être notre secret, » dit Josiane. « OK, Mathieu. » Fait que Mathieu me dit « J'ai un secret à te dire. Ça me fait vraiment chier que j'ai su que vous m'aimiez juste après que j'ai sorti avec Marie. » Je réponds « Ben, tu sais, on voulait pas te le dire parce qu'au party à Mathieu, Marie avait dit que tu tripais dessus, fait qu'on pensait qu'on n'avait pas de chance avec toi. » Je parle pour moi puis Caroline. Mathieu de répondre. « Tu sais, Marie, c'était juste un kick. Tu sais, je sais pas si, avec un gros smile, tu savais que tu viens d'illuminer ma semaine. T'es quoi? C'est ça. À demain. Je vais te raconter tout le party. Bien à toi. Josiane Stratis. »
Écriviez-vous des lettres aussi ou...
Ma lettre édifiante. La meilleure lettre que j'ai écrite de toute ma vie. Salut ma toute petite Caroline de Dream of Mine. Rien d'autre après. Ça va-tu bien? Ben moi, je suis pas mal fatiguée. Z, 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 Z. Hier, je t'ai dit que j'écrirais une lettre, alors je vais t'en écrire plusieurs. A, C, D, W, Z, X, K, Y. Maintenant, je sais ton alphabet. Bla, 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 bla. À part de ça, c'est tout. Bye bye, Josiane Stratis, trois becs de qui?
Mais t'as rempli ta promesse. Puis à partir de ça, disons, est-ce qu'on peut retracer les débuts de TPL un peu? C'est simple, mais il y a toujours, il y a beaucoup de rythme dans ce que vous écrivez, puis il y a des punchs, puis il y a comme une cadence qui est très...
En 2001, là, tu sais, j'ai écrit une phrase que c'est juste un mot « cool ».
Oui.
Puis maintenant, c'est quand même à la mode de faire ça, puis ça donne une certaine contenance à certains statuts Facebook.
Je pense que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui a un personnage, à un moment donné, dans un de ses livres, qui dit qu'elle a beaucoup d'orthographe, mais elle n'a pas de poésie. Mm. Tu sais, elle a comme du... elle est capable de très bien écrire, mais elle n'a pas grand-chose à écrire. Mm-hmm. Ou elle n'a pas... ou c'est plus ou moins... Il y a ces deux parties-là. Tu sais, à quelque part, l'orthographe, c'est mécanique, là. Je veux dire, c'est un... Mais pareil, je veux dire, c'est surprenant. Mais c'est pas surprenant que des profs vous aient diminué par rapport à ça, mais c'est pas une très bonne stratégie.
Même non, encore, il y a du monde qui disent que nos livres sont étonnamment bien écrits. C'est pas parce que là, on écrit des livres que ça fait pas 6 ans et demi qu'on écrit, puis qu'on pratique, puis qu'on fait des essais, puis des erreurs. Puis Internet, ça permet ça aussi, de faire des essais, des erreurs, puis de pouvoir les corriger. Ou de, t'sais, d'éditer après que le texte soit sorti si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas. On choisit vraiment qu'est-ce qu'on met partout sur tous les réseaux sociaux, puis ça fait depuis MySpace, je pense, t'sais, dans le sens MySpace, on mettait notre top 8, c'était pas nécessairement nos 8 meilleurs amis, de toute façon, Josiane puis moi, on devrait vraiment pas en avoir 8, là. Mais t'sais, tu mettais un peu qu'est-ce qui te donnait l'impression d'avoir de la substance, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, en vieillissant avec Facebook, ben là, au début, tout le monde était oversharing, puis il disait tout ce qu'il faisait, puis à un moment donné, les gens se sont rendus compte que, ah, il y a certaines affaires qui marchent, puis là, avec l'algorithme qui a changé, puis là, tu vois juste les affaires que t'aimes, ben tu sais, je veux pas, ça te met un peu dans la performance d'être comme la meilleure version de toi-même. Mais je pense qu'il y a un manque d'éducation sur beaucoup de notions dans la vie, tu sais, comme
les bonnes manières, là,
ben,
ou la politesse.
Les bonnes manières, la politesse, qu'est-ce que tu as le droit de dire à quelqu'un.
Y a-tu comme un déficit d'empathie? Moi, des fois, je me dis, tu sais, je veux dire, il y en avait des boucs émissaires, puis il y en avait des bullies dans toutes les écoles, mais il n'y en avait pas des millions, tu comprends? Il y en avait quelques-uns qui étaient particulièrement...
Mais c'est surtout que quand tu revenais chez vous, tu n'avais plus les bullies chez vous, tu sais, comme ça arrêtait à un moment donné.
Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit que les réseaux sociaux, c'est comme des discussions de taverne. Puis là, maintenant, tout le monde, sont tout enregistrés. C'est comme des discussions qui n'avaient aucune raison d'être, qu'on les retienne ou qu'on les note ou qu'on s'intéresse à. Mais bon, mais c'est quand même votre monde et c'est quand même. Il y a du positif dans votre. Clairement, il y a du positif dans ce que vous faites. Ça, il n'y a pas personne qui en doute. Est-ce que vous retirez quelque chose aussi de votre relation privilégié avec tout ce monde-là?
Bien, on est vraiment chanceuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent. Fait que ce qui change de notre secondaire. Maintenant, tout le monde nous parle.
Oui. Fait que, oui, c'est vrai.
Il y a plein de gens qui vont nous écrire puis ils vont se confier à nous. Puis on est souvent une première oreille. Puis on a eu beaucoup d'amis dans les dernières années qui étaient des amis qu'on n'avait jamais rencontrés de notre vie, mais qu'on pouvait passer des soirées à leur parler.
Sur Internet.
Parce qu'eux, ils n'allaient pas bien, parce que nous, on n'allait pas bien, parce qu'on vivait une problématique, juste de même. Fait qu'on a construit beaucoup de bonnes relations avec les gens grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait qu'on avait fondé Ton Petit Look puis TPL Mom. Fait que
grâce au fait qu'on parlait de sujets que les autres ne parlent pas. Puis, tu sais, dès qu'on a sorti le deuxième livre qui parle de santé mentale, on a reçu des centaines de témoignages. Ça nous aide tellement à valider le fait que c'est ça, notre existence a vaut quelque chose, puis que qu'est-ce qu'on fait, ben ça aide du monde, puis ça aide du monde à se sentir mieux, puis à devenir mieux, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous en parlent pas non plus, mais ceux qui osent nous en parler, ils savent qu'on a une oreille qui est ouverte, puis ça nous fait plaisir. Tu sais, si on a commencé notre première expérience de travail en vendant des pierres semi-précieuses, genre, le monde, il venait nous voir puis nous parlait de leurs problématiques, là. « Hey, je suis vraiment stressée. » Puis on était comme « Ah, mais justement, on a des bagues en hématite à 5 $ Puis genre, ça aide pour le stress. Puis ça aide aussi à aligner les chakras. Fait que, veux pas, je pense que ça nous a aidé à nous distancer un peu des trucs qui sont ésotériques puis qu'on trouve qui n'ont jamais marché, là, tu sais, dans le sens... J'en avais de l'hématite, là, mais j'avais quand même sûrement un trouble anxieux. Puis, il fallait les écouter, ces personnes-là, mais ça nous a vraiment aidé à développer de l'empathie. Peut-être que dans le fond, on n'a pas besoin de réintégrer les cours de morale, mais juste d'ouvrir une chaîne de pierres semi-précieuses.
Peut-être.
En fond, c'est ça la solution, dans le fond.
Peut-être qu'un jour, on va retomber à nos premiers amours et faire des livres de psychopathes.
Oui. Des produits dérivés, peut-être.
Oui, oui. Okay, ça, c'est le lapis lazuli.
Oui.
Pour les troubles anxieux. Fait que c'est ça.
Puis j'ai un extrait de, dans le fond, la première fois que je pense que j'ai découvert que j'étais malade mentale. Fait que, en tout cas, je le trouve drôle de comment je l'ai écrit. Fait que, salut Anne, on se rappelle que mon journal s'appelle Anne à partir de là. Je suis en maths. Je viens de penser à de quoi. Je fais peut-être une dépression. Je veux toujours dormir et je trouve ma vie plate. Puis après ça, je parle d'un de mes problèmes entre amis. Puis plus loin, je numérote c'est quoi les signes de dépression que je pense avoir. Fait que je m'étais auto-diagnostiquée. T'sais, c'est ça, c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'étais sûrement en dépression. Puis qu'est-ce qui est drôle, si on peut dire ça comme ça, c'est que dans le fond, je suis tombée en dépression à 26 ans. Fait que ça m'a quand même pris 10 ans avant d'avoir un diagnostic puis aller chercher de l'aide.
Je pense que c'est le cas de beaucoup, malheureusement, de beaucoup de gens, de jeunes qui...
Je pense qu'il y a beaucoup d'aide qu'on aurait pu avoir dans la vie si on nous avait écoutés. Tu sais, comme quand on était petite, on allait à l'hôpital minimum une fois par mois parce qu'on avait des maux de ventre qui nous empêchaient d'aller à l'école, mais tu sais, comme on pouvait ne rien manger, on vomissait full parce qu'on était stressé.
Il y avait personne qui a allumé.
Il y a personne qui a compris que c'était donc bien wrong, tu sais.
Mais qui avait un problème, oui, oui.
Puis, tu sais, je le nomme, là. Tu sais, je parle à Anne, c'est la dernière page de mon journal, fait que j'ai réussi mon défi de finir mon premier journal. Puis je dis, ça va être un peu dur à lire, là. Je vais te faire une confession, c'est très difficile pour moi. Je pense que si ma vie ne va pas mieux avant le 16 février, je crois que je vais me suicider. Bon, je sais que le suicide, c'est la solution facile, mais je suis écœurée. Je sais que je vais laisser Jo, c'est Josiane, toute seule, et qu'elle va vouloir sûrement laisser faire elle aussi. Mais je peux pas le faire parce que je vais faire trop de peine à ma twin. Je l'aime trop pour la faire souffrir. Oublie les dernières lignes. Je suis pas prête à tout laisser tomber. Je vais donc terminer ce journal en te disant « j'aime la vie ». Mais tu sais, comme j'ai clairement besoin d'aide, là. Puis pour avoir essayé d'en chercher, il n'y a personne qui allumait, là. Fait que, comme, je suis quand même contente d'avoir pu écrire. Puis, tantôt, on ne l'a pas dit, mais souvent, écrire, ça nous permet de sortir de quoi de notre tête, que ça faisait longtemps qu'on y pensait. Mm-hmm. Puis en étant TDAH, à un moment donné, des fois, on repense à des affaires. Puis avec ma dépression, je veux pas, des fois, ça spinne pas mal. Puis de pouvoir l'écrire, puis juste le sortir de notre tête, souvent, moi, ça me fait oublier complètement cette partie-là. Mm-hmm. Fait que,
puis moi, maintenant, j'écris, j'ai comme un mini journal intime dans mon téléphone que j'écris juste quand que, tu sais, ça va pas. Mm-hmm. Puis là, je sors, tu sais, comme... Fait que, tu sais, les gens, ils gossent souvent avec les téléphones cellulaires puis tout ça, mais... Maintenant, tu n'as pas besoin de prendre le temps d'écrire dans un journal qui est comme matériel. Tu peux avoir quelque chose avec toi pour sortir le trop-plein aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme de façon très personnelle, dans le sens que je dis déjà pas mal d'affaires sur ma vie, mais là, c'est comme un peu mon... Fait que, tu sais, des fois, quand je suis stressée ou que ça va pas ou que je suis fâchée sur quelque chose, je vais aller écrire encore. Puis ce réflexe-là m'aide tellement. Puis on n'a pas le réflexe non plus d'en parler à plein de monde parce qu'on a de la difficulté à faire confiance encore maintenant, mais tu sais, comme ça fait du bien de le sortir. Puis d'un coup que c'est fait, tu sais, comme mm-hmm. on voit des textes de cette façon-là, sûrement parce qu'on a écrit une partie de notre enfance quand ça allait pas puis qu'il fallait en parler. Mais c'est ça, ça reste ça nous aide autant que ça aide d'autres mondes, fait qu'on est bien contents.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, les filles.
Les jumelles de la lourdeur.
Caroline et Josiane.
Je vais finir avec une bonne joke, là. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu?
Merci beaucoup de votre temps, de vous être livré comme ça.
Mais ça, c'est vraiment facile. Donnez-nous un micro, on va parler sans arrêt. J'ai encore des choses à dire. Québec-Amérique.
Faut bien commencer quelque part est une production de Québec-Amérique réalisée par Philippe Collard et enregistrée au Café littéraire chez l'éditeur. Le thème musical de l'émission est l'œuvre d'Adriana Crickle.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bon, moi, j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!